Je m'appelle Grégoire Moutel, j'ai une double casquette. La première, c'est d'être clinicien diabétologue et s'occupant particulièrement des questions de prévention et prise en charge des populations vulnérables. Donc sur le groupe HEGP Corentin-Celleton. Et sur ma dimension universitaire, j'ai fait le choix d'un parcours original et atypique qui est de tenter de sensibiliser les futurs professionnels de santé aux questions d'éthique, c'est-à-dire l'ensemble des situations qui peuvent poser au quotidien un problème de décision, et en particulier par rapport à une norme imposée, que ce soit une recommandation professionnelle, par rapport à une norme légale, une norme sociale, voire même parfois religieuse, et de voir finalement comment le professionnel de santé doit se positionner et construire sa décision.
C'est quoi l'éthique médicale ?
Alors, je dirais que l'éthique médicale, par définition, en champ précis, elle ne devrait pas exister, puisqu'elle infuse, je pense, la pratique de chacun. Simplement, si on veut un peu structurer le versant pédagogique, ce serait à l'heure de croire qu'il n'y a rien à apporter à nos futurs jeunes collègues. C'est-à-dire qu'il y a des substrats à apporter dans le domaine de l'histoire de la médecine, dans le domaine de la place de la règle juridique, dans le domaine de la sociologie, dans le domaine même du sens épistémologique des choses. Et donc, par définition, l'éthique médicale, on va dire que c'est un grand réceptacle dans lequel on fait intervenir tout ce qui n'est pas enseigné ailleurs et tout ce qui paraît nécessaire à l'exercice de la pratique médicale. Donc, par définition, un champ interdisciplinaire. Donc, on va dire qu'un médecin ne peut être que l'animateur ou le coordonnateur de tout cela, mais surtout pas un acteur solitaire qui serait un éthicien. D'ailleurs, on récuse l'idée d'éthicien qui est par définition dangereuse parce que ceux qui sont risqués essayent d'imprimer finalement une éthique de conviction plutôt qu'une éthique de discussion.
Et comment ça marche le laboratoire d'éthique médicale c'est-à-dire qui intervient, tu parles du médecin qui intervient, mais ouais. J'imagine tout un tas d'autres intervenants. Comment ça s'articule en pratique
Alors en fait, ça s'articule essentiellement, initialement, parce qu'on est des affreux universitaires, à partir de thématiques de recherche. Et donc on peut avoir n'importe quel clinicien animant n'importe quel service qui vient nous voir un jour en disant voilà une problématique qui est la mienne. Alors on veut parler de la durée de conservation des gamètes dans un sécos. On pourrait parler des critères d'application de la loi Leonetti dans un service de réanimation pédiatrique. Mais on pourrait aussi poser la problématique de la diversité culturelle et du positionnement des jeunes femmes musulmanes dans un centre d'orthogénie. Voilà. Et les collègues viennent nous voir en nous disant « voilà, ça fait des années qu'on a ces questions-là, on voudrait aujourd'hui tenter d'y voir plus clair ensemble ». Et finalement, en fonction du sujet approché, on va leur dire ben, « déjà mobilisons des ressources de votre terrain, mais nous les données factuelles, les cohortes, les séries, les nombres de dossiers que vous avez, pour que déjà on voit si de grandes idées ou de grandes problématiques s'en dégagent ». Et ensuite, dans la résolution de ces problématiques, c'est là qu'on va mobiliser des acteurs. S'il y a un volet juridique, de voir en quoi le droit parle sur cette question, en quoi il est adapté, en quoi il faudrait le réviser ou le revisiter. Si ça mobilise une dimension religieuse, essayer de bien comprendre, parce que souvent on ne les connaît pas, hein, les entre guillemets prérogatives de chacune de ces religions qui interfèrent. Si on est aussi sur un positionnement où les médecins ne sont pas d'accord entre eux, de faire dialoguer ces médecins entre eux pour essayer de comprendre les arguments de chacun sans les opposer brutalement. Et pour in fine, finalement, du moins c'est mon point de vue, essayer d'arriver à quand même une logique consensuelle, à une logique de recherche de solutions. Et c'est en ce sens que moi je suis plutôt un acteur en faveur de ce qu'on appelle les éthiques appliquées. C'est-à-dire une éthique qui va permettre à des professionnels de santé de mieux résoudre ces questions et aussi d'être plus à l'aise plan psychologique, et c'est pas ici que je vais vous apprendre quoi que ce soit, mais par rapport aux questions du burn-out, du mal-être, il est clair que tout ce qui aura été discuté dans une dimension un peu universelle, un peu globalisante, fait que la décision prise sera certainement mieux comprise, mieux acceptée. Donc c'est vraiment le champ des éthiques appliquées, c'est important de le préciser, parce qu'il y a des personnes, y compris certains médecins, qui se sont risqués à verser fondamentalement vers les approches philosophiques. Donc à titre personnel, j'ai rien contre, d'autant plus que moi j'ai un papa qui est professeur de philosophie, donc c'est clair, c'est pas un positionnement idéologique, mais il y a un grand danger, c'est que du coup, certains de ces professionnels s'évadent vers un champ qui est important pour eux, mais un champ qui n'amènera pas à la résolution des tensions sur le terrain. Et donc c'est un peu des éthiques institutionnelles, des éthiques académiques, voire pour certains des éthiques d'estrade. Et voilà, c'est pas la même chose. Donc en fait, on est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler l'éthique clinique et l'éthique appliquée.
Est-ce que c'est une casuistique? Est-ce que c'est nous, par exemple, pour un cas, on va vous voir? Ou est-ce que c'est une problématique plus générale qu'on aurait en tant que service sur, par exemple, la loi Leonetti?
Alors, l'intitulé des lieux où se déroule la réflexion éthique est important, puisqu'on a connu ce qu'on va appeler classiquement les comités d'éthique, historiquement. Le comité d'éthique va se différencier d'une deuxième structure dont on parlera après, qui sont les lieux de recherche en éthique, et que certains, ou qu'on a pu appeler laboratoire, parce que c'est la mode d'appeler les lieux de recherche laboratoire, donc il y a un petit jeu sémantique là-dessus. Alors pour les comités d'éthique, on était historiquement dans l'idée qu'effectivement un professionnel de santé seul dans un service pouvait se sentir en difficulté sur une prise de décision, et qu'il devait avoir un lieu de rencontre où allait se parler des différentes disciplines déjà médicales, par rapport à une situation singulière, alors le neuroradiologue, le neuropédiatre, le réanimateur, voilà, sur un certain nombre de pathologies de l'enfant. Et puis, du coup, on s'est dit dans ces comités éthiques, mais quid de la psychologie, et puis quid de l'assistante sociale, et quid de ce que dit le droit, voilà. Donc on est dans un lieu, dans le comité d'éthique, de résolution d'un problème singulier où toutes les compétences doivent être réunies. Et du coup, ça fait le lien avec ce qui est devenu maintenant presque la règle, la question de la collégialité, ou des lieux de rencontre, voilà, interprofessionnels nécessaires à une décision construite à plusieurs. Alors ça, c'est des choses très importantes, et en fonction des lieux de soins, ça prend des formes diverses. Il y a des endroits où les comités sont restés, d'autres endroits où ils ont disparu parce qu'il y a de la collégialité dans les services. Il y a des endroits où malheureusement il n'y a rien, ce qui est ça, de mon point de vue, un peu un souci. Voilà, c'est le premier volet. Et puis le deuxième volet, c'est effectivement des lieux un peu novateurs, mais enfin, il faut se méfier de dire que tout est novateur, parce que maintenant, ça fait 15-20 ans que ça existe, mais quand même un peu novateur du point de vue, on va dire, de l'évolution du domaine de la recherche en médecine, où on se dit, au-delà de ces cas singuliers, pour être méthodologiquement rigoureux, il y a la question des cohortes. Voilà, c'est-à-dire, ce cas singulier a été singulier à un endroit, mais on l'a retrouvé ailleurs. Et puis au fil du temps, dans un service, des cas singuliers, on finit par en avoir une centaine. On se dit, on peut peut-être emporter, à travers ces analyses de cohortes, des enseignements de portée générale. Voilà. Et donc c'est là qu'arrive peut-être la question entre guillemets recherche, mais moi que je préfère appeler évaluation des pratiques professionnelles, ou réflexion sur les pratiques professionnelles, ou sur un ensemble de situations. On essaye de tirer des propos d'ordre généraux. Et l'intérêt des propos d'ordre généraux, justement, c'est que du coup, ils ne vont pas être normatifs. Le but de ces propos d'ordre généraux, ce n'est pas forcément de dire « voilà pour l'ensemble de ces 100 dossiers ce qui doit être fait de manière uniforme », mais au contraire, de montrer les sous-groupes et les sous-catégories qui vont permettre, et là on rentre dans le champ de l'éthique, de dire que par rapport à une situation, on va dire organiquement clinique identique, on va se permettre d'avoir des réponses différenciées parce que d'autres événements ou d'autres éléments de l'environnement familial, culturel, voire même de la contrainte hospitalière par moment, hein, on en parle peu, on n'ose pas le dire, mais la contrainte de lit, la contrainte économique, feront que les réponses seront différentes. Et de ce point de vue, ça rejoint le débat démocratique, puisque du coup, ces résultats d'études permettent d'éclairer le débat public sur des questions de médecine et société, hein, des questions dites d'éthique sociétale. Et on sait qu'on ouvre tous les jours, nous, un magazine ou un journal, et elles sont toujours présentes. Je peux donner un exemple un peu précis, mais aujourd'hui en France, on sait qu'on est face à la question de la pénurie d'organes sur la greffe de rein et l'insuffisance rénale. Une des questions qui va se poser demain, c'est est-ce qu'on réfute l'idée selon laquelle un patient de plus de 70 ans aurait droit à la greffe ou pas? Alors, il faut déjà connaître le nombre de patients de plus de 70 ans concernés, parce que s'il y en a un concerné, bien sûr, en termes d'éthique individuelle, ça pose question. S'il y en a 5000, la question n'est pas du même ordre, ça devient une question d'éthique collective. Et donc du coup, ça rejaillit sur le débat sociétal, sans savoir quels sont les critères aujourd'hui d'acceptation ou de refus d'un candidat à la greffe. Voilà, c'est un exemple qui montre voilà, l'intérêt de ces dimensions-là dans leur globalité.
La recherche au laboratoire part de la clinique et d'un noyau clinique, donc c'est le côté appliqué. Et ensuite, est-ce que tu peux détailler un petit peu plus comment finalement ça redescend après la réflexion qu'il y a pu y avoir et tout ce qui a pu être mis autour, étoffé, etc. Comment ça redescend finalement à la clinique, par quel biais, par quel moyen ça revient finalement à la clinique ?
La question, suivant l'évaluation ou suivant les travaux théoriques qui sont faits dans un lieu de recherche en éthique, débouche forcément sur à quoi ça sert finalement et vers qui ça va. Alors, je l'ai évoqué un petit peu précédemment, je crois que les résultats déjà doivent être portés à la connaissance grand public dans une dimension un peu politique, alors en restant modeste, hein, parce qu'il ne faut pas s'illusionner sur la portée de tous les rapports, de tous les travaux qui existent dans une société. Mais néanmoins, si je prends très concrètement la question de loi de bioéthique, dont on parle du caractère révisable, la question c'est au nom de quoi et au titre de quoi on la révise, et sur quels critères on la révise. Et donc là, un travail factuel sur un sujet précis de la loi va permettre de dire la loi est en adéquation ou non avec la réalité du terrain. Et alors là, deux débats. Soit c'est le terrain qui ne s'est pas adapté à la norme et la norme est jugée valide et doit rester valide, et donc c'est le terrain qui doit être formé et s'approprier la question de la loi. Ou alors, la loi a été pensée dans un cadre trop restreint, sans un débat préalable suffisant et ne correspond pas du tout à la réalité du terrain, et c'est la loi qui doit évoluer. Donc c'est un des premiers points qui me semble intéressant en termes de retombées sur cet angle-là, c'est de dire on anime le débat social, mais on anime aussi la formation et la prise de conscience des professionnels. Alors sur la question débat social, et ben, ça rejaillit à travers des écrits, des prises de position publiques, des participations à des rapports, on va dire, institutionnels. Sur le côté professionnel, c'est là que j'insiste sur le fait que ce soit des professionnels qui participent à la démarche éthique eux-mêmes, parce qu'ils vont être les relais de leur propre interrogation. Et pour les exemples très concrets auxquels je participe, c'est les sociétés savantes de médecine qui se font le relais dans leurs congrès, dans leurs communications, de travaux qui finalement sont faits par eux-mêmes, avec certes des collaborations de gens entre guillemets compétents dans le champ de l'éthique, mais qui leur appartiennent en propre et qui font que ça va les amener à réfléchir sur leur pratique. En tout cas, moi je crois beaucoup à ça. D'un point de vue ensuite plus structuré, c'est la source de l'enseignement en faculté de médecine, par exemple, ou dans les IFSI, les instituts de soins infirmiers, puisque il y a deux façons d'enseigner la responsabilité, la déontologie et l'éthique. C'est soit de dire la norme, une théorie que je ne partage pas, soit de dire la norme et de porter un regard critique sur la norme en expliquant à ces professionnels que la norme ne répondra pas à toute leur situation singulière et que par moment, ils se trouveront en situation de référer à une norme qui ne répondra pas à leurs besoins et à leur nécessité de décision. Et voir, on peut poser le terme ici, je pense, qui les amènera sans doute à transgresser. Et si l'on transgresse, c'est au nom de quoi, au nom de quelle procédure, au nom de quelle valeur. Et la boucle est un peu bouclée, puisque dès lors que l'on transgresse, on renvoie à la question finalement des recherches ou des évaluations qu'on fera au décours de cette transgression. Donc ça, c'est, on va dire, les trois premiers volets. Donc la chose publique et politique où on communique. Deuxièmement, les sociétés. Troisièmement, les étudiants. Et puis je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Moi, j'y suis très attaché. Ce sont les patients. C'est-à-dire la communication vis-à-vis auprès des associations de patients. Et à titre personnel, moi, je suis un peu militant de cette question-là. C'est que je pense qu'il est difficile aujourd'hui de parler de codécision, de partenariat, d'échange, sans que les professionnels n'expliquent pas aux patients et aux citoyens en général qu'ils ne sont pas détenteurs de vérités toutes faites et qu'eux-mêmes ont des doutes et des interrogations. Et que je pense que ça change la nature du dialogue selon qu'on a un professionnel qui se pose en sachant pur et dur et qui croit avoir tous les déterminants dans ses mains, peut plutôt être un sachant qui dit « oui, il y a des choses que je sais, mais il y a des zones d'ombre et ces zones d'ombre, elles nous appartiennent en commun, elles doivent être discutées avec vous. » Sinon, voilà, on reverrait un vieux schéma qui est celui du paternalisme ancestral, fortement décrié, à mon avis, justement fortement décrié, parce que violent. Et violent pour tout le monde, d'ailleurs, hein, pour les professionnels comme pour les patients. Donc voilà un peu les retombées telles qu'on peut les voir en termes de cible, on va dire, des travaux en éthique.
À ton avis, qu'est-ce que la loi Leonetti a changé dans les pratiques et par rapport à l'éthique ?
Alors, un des exemples qui est soulevé aujourd'hui, certainement des plus, hein, les plus, on va dire, les plus parlants, et la question de la décision par rapport à la mort. Dans la question de la décision par rapport à la mort, dans la ligne directrice de ce qu'on a dit tout à l'heure, on aurait pu imaginer des professionnels de santé qui décident seuls, dans l'alcôve du secret, avec tous les atermoiements du débat entre légitimité d'arrêter des soins et euthanasie. Donc de ce point de vue, beaucoup de gens savent en France, mais ça mérite d'être précisé, une loi est venue, on va dire, éclairer un peu, essayer de tenter de baliser le terrain. C'est la loi dite Leonetti, relative à la fin de vie. Cette loi Leonetti, elle est partie d'un constat relativement simple à expliquer, mais complexe au plan humain, qui était que les arrêts des soins en France étaient effectifs. La plupart des services de réanimation, il y a des très beaux papiers publiés là-dessus, le papier d'Edouard Ferrand, mais que cette pratique restait occulte et avec une critériologie de discussion et d'éthique de la discussion et de prise de décision potentiellement discutable parce que justement non transparente et non exposée au grand public. Alors le choix eut peut-être de dire, eh bien on prend un grand couvercle, on recouvre tout ça et on n'en parle pas. D'autant plus que cette discussion sur les arrêts des soins est une discussion forcément mixte de la question du geste euthanasique, en permanence. Même si on essaye d'y mettre une certaine limite théorique, on voit bien que ça se chevauche en permanence. Donc d'un point de vue sociétal, politique, on aurait pu dire « on met ça plus tard ». La grande sagesse de la loi Leonetti était déjà de dire « on ouvre le débat, on le pose et on l'expose au grand public ». Pour moi, la loi Leonetti, c'est un formidable progrès d'exercice démocratique du monde médical vers la société, de dire, allez, cette fois-ci, justement, les médecins ont des données, ils ne les gardent pas secrètes, ils exposent leurs troubles, ils exposent leurs dilemmes, leurs difficultés, et ça rejoint tout à fait ce que j'essayais de dire tout à l'heure, on ne croit pas qu'on est les grands maîtres de tout. Voilà. Donc je trouve que c'est certainement la première vertu de la loi Leonetti, d'avoir ouvert un champ de débat démocratique dans un pays qui, finalement, le nôtre, est assez archaïque et assez fermé à ce genre de questions, quoi qu'on en dise. On se dit pays des droits de l'homme et de la discussion, mais sur des grandes questions sociétales comme ça, depuis la loi Veil des années 70, rien de tel n'avait été débattu. Donc ça faisait quand même 40 ans qu'on n'avait pas débattu une question sociétale aussi lourde. Donc je trouve que c'était positif. Ensuite, l'autre côté positif, mais c'est certainement pas à moi de le dire seul, mais c'est aux professionnels de la réanimation et de la médecine de le dire, elle a changé la nature des rapports au sein des équipes, puisque officialisant la permissivité d'un geste, ça libère les paroles, et ça libère au sein des équipes que le sujet soit discuté. Et la première vertu de la loi, c'était d'inviter les gens à cette discussion à travers l'obligation de collégialité. Alors, voilà, c'est je trouve, là aussi, un moment important pour la vie des équipes et le bien-être des personnes et des personnels. Il y a pas mal de papiers qui sortent. On a fini une étude avec l'équipe de Lille sur ce sujet-là par rapport à la souffrance et à la vulnérabilité des professionnels. On verra ce que ça va devenir, mais il semble que la loi, quand même, ait cette vertu positive. Là, il peut y avoir peut-être débat sur cette question-là, on en reparlera. Et le troisième point qui découle des deux premiers, c'est qu'on est dans un système dit républicain, dit égalitaire, et qu'on savait que sur ces questions de fin de vie, il y avait une forte inégalité territoriale. Et que les décisions prises étaient très variables d'une région à l'autre de la France. Et qu'on peut espérer, c'est pas encore fait, que le principe universalisant de la loi fasse que chacun, quand même, petit à petit, arrive à des champs de réflexion communs et des partages de procédures communes, même si elles ne doivent pas être absolument normatives dans des strictes identités territoriales. Mais quand même, les grosses inégalités étaient relativement patentes. Voilà. Et en gros, ces grosses inégalités portaient sur une inégalité factuelle, c'est-à-dire des situations dites d'acharnement thérapeutique déraisonnable, excessive dans certaines zones géographiques, et à contrario, peut-être, mais les données sont difficiles toujours à avoir, mais ça se sent, des lieux où les décisions d'arrêt des soins auraient pu trop rapidement verser sur des actes de type euthanasique. Voilà. Donc voilà, donc, je pense que c'est les quelques vertus un peu de la loi Leonetti. Qui me semble à ce jour intéressant.
La loi de Leonetti, dans son intitulé, comporte quelques mots qui illustrent bien le champ. C'est une loi relative à la fin de vie. Relative à la fin de vie amène de facto à se poser la question de pourquoi une loi dans ce domaine-là. Alors la loi dans ce domaine-là a été posée parce que quand un patient ou un citoyen se présente à l'institution de soins dans une situation grave, soit du registre de la cancérologie, soit du registre de la réanimation, eh bien il attend de l'institution, ce qu'attend tout individu, une espérance de vie. Et dans le cadre de cette espérance de vie, le médecin va tout mettre en œuvre pour sauver la vie de son patient. Mais mettant tout en œuvre pour sauver la vie de son patient, il faut rapidement faire le constat que le public n'a pas forcément fait implicitement, que ce tout mettre en œuvre va aboutir à une impasse, à une situation où finalement on aura fait ce qu'appelait Jean Bernard un geste d'obstination nécessaire, mais que cette obstination nécessaire risque de devenir rapidement déraisonnable. Et devenant déraisonnable, la question de l'arrêt ou de la limitation du soin va se poser. Mais derrière cet arrêt ou cette limitation de soin, c'est la question symbolique de finalement donner la mort ou arrêter la vie qui est posée. Alors le terme donner la mort apparaît violent puisque le médecin était là pour sauver la vie, mais il est utilisé et souvent référencé dans la littérature parce que c'est comme cela qu'il est perçu par certains proches de patients et par certains professionnels de santé. Donc c'est pour ça que je me permets de le poser en tant que tel. Et finalement, c'est aussi une bonne question à se poser, puisque ce débat de la limitation et de l'arrêt des soins est forcément mitoyen du débat sur l'euthanasie. Et pour faire simple, et c'est compliqué de faire simple dans ce domaine-là, le débat sur l'euthanasie peut concerner un certain nombre de patients qui, de par leur évolution naturelle, ne décéderaient pas, et pour lequel le médecin pourrait être à même de faire un geste dit actif entraînant le décès. Donc dans ces zones mitoyennes de débat, la loi Leonetti avait pour finalité de tenter de clarifier au moins un pan de ce débat-là, c'est-à-dire la situation des patients où la médecine était allée loin, avait tout tenté pour un patient, et face à l'impasse thérapeutique, de savoir si l'on pouvait être dans l'arrêt ou dans la décroissance. Et puis est venu se rajouter un débat annexe qui est la question de la souffrance, de la douleur et de la pénibilité, puisqu'un certain nombre important de ces patients nécessitaient des traitements de la douleur, en particulier morphiniques, pour faire simple. Et qu'on sait que ces médicaments ont pour la plupart un effet secondaire, iatrogène, mais aussi peut-être positif, dans certaines situations, qui est celui de la dépression des fonctions cardio-respiratoires. Donc, en soulageant, le geste pouvait aussi entraîner ou majorer le risque de décès du patient, ce qui a pu être qualifié de double effet. Et donc, si on se remet dans une dimension un peu médico-légale et pénale de ces gestes-là, avant la loi Leonetti, tout médecin qui mettait en œuvre une démarche ou une attitude, ou un choix, ou une stratégie thérapeutique, on peut les appeler comme on veut, qui allait délibérément entraîner le décès du patient, pouvait se retrouver sous le vocable d'homicide volontaire. Or, on voit bien qu'en termes d'intentionnalité et de sens, justement, ceci n'a plus de sens. Et donc, une des premières finalités de la loi était de donner un cadre juridique à cette situation nouvelle créée par les progrès de la médecine. Elle rejoint aussi cette volonté de clarifier la volonté du grand public de ne pas voir soi-même, dans une perspective très identitaire, soit un de ses proches, se retrouver dans des situations de grande pénibilité, d'acharnement et on va dire, même si le débat est ouvert, d'atteinte à une certaine forme de dignité de la personne. Donc un consensus a été trouvé pour acter le fait que désormais les professionnels de santé pouvaient être amenés à arrêter, limiter des soins, voire à non pas pratiquer délibérément le double effet, mais faire que le double effet soit une situation légalement et légitimement possible dès lors qu'elle surviendrait. Donc incontestablement, ça sécurise la pratique professionnelle. C'est une loi qui sécurise la pratique professionnelle, mais si elle n'était que ça, ce serait très utilitariste. Elle a aussi le mérite d'avoir posé le débat sociétal et d'éclairer le grand public sur le fait que la médecine n'était pas toute puissante, qu'elle avait des limites et que face à ces limites, il fallait trouver certainement la solution la moins pénible pour tous, c'est-à-dire une forme d'accompagnement vers la fin de vie, d'où le titre de la loi, et donc vers le décès de la personne. L'autre pan de la loi, et qui était très important dans sa genèse historique, c'était de se dire, mais attention, attention, une fois qu'on a posé ces principes, qui est le maître d'œuvre et qui décide? Et on aurait pu imaginer un système où le médecin seul, quand son patient est inconscient, décide. Le deuxième échelon, c'est le médecin seul avec son patient quand il est conscient. Donc vous voyez, les zones de débat qu'il y a pu y avoir, c'est finalement d'arriver à travers une règle collective, de poser le cadre de la décision. Lors, sans redérouler toute la loi, il y a quand même des interrogations. La première interrogation, c'est celle patient-inconscient. Patient-inconscient, qui décide? L'idée a été de se dire, premièrement, il faut que l'équipe médicale ait une expertise réelle de la situation du patient en termes de science, de valeur scientifique de la décision. Il faut y être attaché, parce que sinon, c'est la porte ouverte à un certain nombre de dérives. Donc, est-ce que l'expertise médicale est bonne sur ce patient? Est-ce qu'on est sûr que la situation dans laquelle il se trouve peut relever d'une décision de limitation et d'arrêt des soins? Donc le niveau d'expertise, déjà, se doit d'être collective et d'où collégiale. Donc déjà, il y a la problématique de la collégialité médicale, où vont intervenir le réanimateur, le pneumologue, le neurologue, l'infectiologue, peu importe la situation clinique. Et puis, d'emblée, on a ouvert, même si tout ça ne figure pas clairement dans la loi, mais c'est l'esprit de la loi, à la question des dimensions concernant l'intimité, l'identité, le vécu de la personne concernée et de ses proches. D'où l'apport de la psychologue clinicienne dans le débat. Voire même, du moins moi je plaide pour ça, mais tout le monde n'est pas d'accord, le regard d'une assistante sociale, pardon. Le regard de l'infirmière, le regard de l'aide-soignante qui est passée dans la salle, qui a vécu des fois des choses autour de l'intimité de la personne plus forte que le médecin qui a un autre regard sur la question. Donc on a là un esprit d'élargissement de la collégialité qui montre bien qu'on élargit le débat en dehors de la technicité médicale à la question du vécu et de l'identité de la personne. Et puis du coup, on est forcément, quand on est dans ce chaînon, de poser la question de qui représente le patient, non pas forcément par rapport à la légitimité de la décision, mais par rapport à des accompagnements de décision en termes de rituel, de sens, de est-ce qu'on permet à la petite fille du monsieur de 80 ans qui habite Marseille alors que la petite fille est à Paris, de revenir au chevet de son père. Donc des accompagnements de la décision qui montrent que la place des proches, pas forcément et surtout pas pour décider de la mort de son proche, parce que c'est une décision impossible à prendre et à délibérer, mais pour donner du sens à une décision qui va être prise avec les autres et pour y mettre des grains de personnification de la décision. Donc, je pense que la loi avait bien perçu ça, ce champ d'une collégialité de décision. Alors, quand le patient est inconscient, il s'entend bien. Bizarrement, quand on relit la loi, et c'est là que j'ai un petit accroche intellectuel sur la loi, quand le patient est conscient, on aurait l'impression, on pourrait avoir l'impression, et d'ailleurs c'est le cas, que la loi n'impose pas la collégialité et que tout pourrait se décider entre le patient et le médecin. Il se trouve que c'est une des lectures de la loi que beaucoup partagent, au plan juridique pur, mais heureusement au plan des pratiques, la plupart des services avec lesquels on travaille ne sont pas allés vers ça et exercent aussi la collégialité dans ces situations-là. Donc finalement, ça montre aussi que les gens s'approprient une loi, qu'on la fait vivre démocratiquement, qu'elle évolue et tout. Mais donc voilà, on a bien posé ce champ-là. Ce qui fait que, in fine, aujourd'hui, on pourrait dire que le cadre est posé. Le grand débat qui attend les années à venir, c'est l'appropriation de cette loi par l'ensemble des services, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tous les services de France et de Navarre n'ont pas encore complètement l'appropriation de ces procédures, et du sens peut-être aussi de ces procédures, parce que c'est peut-être le plus important, le sens. Mais d'un autre côté, voilà, Paris ne s'est pas construit en un jour, hein, comme on dit. Donc il faut certainement laisser le temps au temps pour que ça avance. Et finalement, il reste un pan, c'est important là dans le débat sociétal de dire, qui n'est pas résolu et pas traité par la Lolognetti, sans prendre position pour ou contre la question euthanasique, mais n'est pas résolu. Du coup, la situation d'un individu type Vincent Humbert, ou de tout patient tétraplégique, qui jugerait sa vie indigne de son propre point de vue, mais pour lesquels la vie n'a pas de raison de s'arrêter, pour lesquels on n'est pas en situation d'acharnement et d'obstination déraisonnable, mais pour lesquels l'individu demanderait un geste de la collectivité, pas forcément que de la médecine, lui permettant d'arrêter sa vie. Et ça, c'est le débat sur l'euthanasie. Donc la loi Leonetti a eu cette sagesse pratique de résoudre un problème pratique et une question majeure du dispositif de santé, sans... certains le regrettent, mais c'est une sagesse pratique qui me semble pragmatique, sans rouvrir le débat sur l'euthanasie, qui, elle, est une question beaucoup plus large et beaucoup plus complexe. Concernant le débat sur l'euthanasie, je disais tout à l'heure que, étonnamment, la France précurseur d'un temps des Lumières, précurseur d'une dimension des droits de l'homme, n'était peut-être pas aujourd'hui le pays le plus en pointe en termes d'organisation du débat démocratique et public sur des questions aussi lourdes que ça. Effectivement, des pays frontaliers de la France ont fait le saut d'accepter la réalisation de gestes euthanasiques. Pour autant, l'idée éthique selon laquelle les autres font serait la légitimité à faire soi-même n'est pas forcément l'argument premier. Puisque on va dire que l'identité culturelle de chacun des États membres de la communauté européenne qu'on essaie de noyer dans un grand tout est quand même très particulière. Très particulière. Et que donc les champs sociaux, le système de santé, les valeurs véhiculées par exemple même sur la question de la médecine palliative au sein d'une logique de service public ne se retrouve pas partagée dans tous les pays. Donc dire que parce que d'autres font, nous on devrait faire n'est pas forcément l'angle d'attaque. Je donne un exemple. Si vous êtes dans un pays en crise économique, on va être respectueux des collègues belges, la médecine palliative existe en Belgique, mais si la médecine palliative n'est pas ancrée comme dimension forte de service public, accessible pour tous, c'est-à-dire avec des principes d'égalité, de solidarité, forcément le débat sur l'euthanasie prend une autre nature que si vous êtes dans un pays qui se dit « voilà, la médecine palliative est une priorité, est une urgence nationale ». Voilà, donc c'est déjà un premier élément de réflexion qu'il faut avoir à l'esprit, puisque, pour être encore plus clair, le débat n'est de pas être pour ou contre l'euthanasie, c'est un débat relativement stérile. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont des convictions, mais du point de vue de la pratique médicale, c'est un débat relativement stérile, puisque médecine palliative et euthanasie ne doivent pas s'opposer. Mais ce qui serait dramatique, c'est un pays où on aurait recours aux gestes euthanasiques parce qu'on n'aurait pas accès à la médecine palliative et parce qu'on n'aurait pas un système d'accompagnement des personnes, justement, là, pour le coup, le mot est juste, dans une certaine forme de dignité. Et que l'euthanasie ne serait pas forcément une euthanasie fondée sur une décision mesurée, d'où le terme d'euthanasie d'exception du Comité national d'éthique. Donc l'euthanasie ne serait pas une euthanasie d'exception, mais serait une euthanasie de banalisation, voire une euthanasie d'ordre social, parce qu'on n'aurait pas les moyens d'accompagner les personnes correctement. Donc là je crois qu'il faut poser les termes comme ça. Et concernant du coup l'articulation intelligente, saine et apaisée, un pays dans lequel les gens seraient accompagnés au mieux, avec tout ce qu'on pourrait souhaiter, même si c'est un peu un monde idéal, qui amènerait en fin de parcours, à un moment du parcours, à poser le geste euthanasique, là ça prend un autre sens. Et ça peut rencontrer une certaine forme de légitimité. Donc vous voyez la complexité aussi, et peut-être la sagesse du coup, même si j'ai un peu critiqué la France tout à l'heure, j'ai critiqué parce que je pense que le débat n'a pas eu assez lieu. Je ne critiquerai pas le fait qu'on n'ait pas encore légalisé l'euthanasie dans notre pays. Voilà. Parce que je pense que ces questions sont suffisamment lourdes pour se dire soyons sûrs justement des assises de ce qu'on vient de débattre à l'instant pour poser le jalon supplémentaire. Donc du coup, les collègues des autres pays européens qui discutent avec nous sont intéressés par la position française. C'est ça qui est intéressant. C'est que ils ont effectivement, pour certains, légitimé l'acte euthanasique, Mais la réflexion française les intéresse parce qu'elle leur sert de garde-fou par rapport à leur risque de dérive propre. Donc je dirais que peu importe qu'on ait légalisé ou pas, la question c'est est-ce que tout le monde reste vigilant, voilà, en partenariat. Et puis je rajouterais, mais c'est une petite pique intéressante, que de toute façon l'espace de liberté des individus, même si ça fait écho à une certaine forme d'inégalité, existe puisque les choses sont transfrontalières et que on sait certains patients peuvent passer d'un pays à l'autre. Et donc pour peu qu'on ait une vision absolument non normative de l'éthique qui est la mienne, c'est assez sain. C'est-à-dire que le débat a lieu au sein, finalement, de cet espace européen. Il a lieu. Hein. Souvent on dit qu'il n'a pas lieu, mais en fait, il a lieu. Il a beaucoup lieu entre les professionnels et beaucoup lieu entre les associations de patients et les citoyens. Donc le débat s'exerce. Les individus véhiculant des idées entre eux, le corps social évoluant à travers les frontières, on voit qu'il y a quand même un brassage des idées et que peut-être on arrivera à un rapprochement des positions. Alors, au-delà de toutes les questions là, qu'on a eu le plaisir de discuter ensemble, on peut s'interroger sur ce qu'on va appeler le statut de l'éthique. Alors le statut de l'éthique, je ne sais pas si c'était sous-jacent en filigrane de mes propos, mais il mérite d'être interrogé parce qu'il y a plusieurs façons d'exercer l'éthique. Un des premiers niveaux qu'il faut exposer sans le dénoncer violemment, mais pour en avoir conscience, c'est ce qu'on va appeler les éthiques de conviction. Les éthiques de conviction sont respectables, mais elles se rapprochent de la question de la morale individuelle ou de la morale des groupes ou de la question des croyances. Et donc le mot éthique est utilisé dans ce cadre-là pour faire apparaître comme éthique, justement, un point de vue qui est pourtant celui uniquement d'un individu ou d'une communauté d'individus, donc qui n'est pas l'éthique du collectif. Donc, le travers de l'éthique de conviction, qui doit interroger les professionnels de santé d'ailleurs, hein, parce qu'on a tous nos propres convictions, c'est imposer à autrui ce que je penserais juste pour moi ou pour mon collectif. Et on voit donc que quand on est dans le champ du soin, c'est une démarche qui, de mon point de vue, ne peut tenir, puisque c'est imposer au patient une conviction qui n'est pas la sienne. Donc quelque part, une forme d'irrespect de la nature même de ce qu'est l'acte médical, qui est de considérer l'autre dans sa destinée, dans sa liberté et dans ses choix, au maximum, bien sûr. Donc ça, c'est le premier niveau qu'il faut avoir à l'esprit. Ensuite, on va aborder la question des éthiques qu'on pourrait qualifier normatives, qui procèdent d'une réflexion collective. Donc effectivement, on aboutit à travers la réflexion éthique partagée, on prend toutes les éthiques de conviction, on prend tous les points de vue, on prend les aspects sociologiques, les aspects juridiques d'une question, les aspects religieux, et on arrive à établir une norme que certains vont qualifier aussi d'éthique. Ce sont, par exemple, les lois de bioéthique, ou la loi Leonetti, dont tu viens de parler. C'est finalement une démarche d'éthique collective qui va procéder de l'établissement d'une norme. Mais cette norme, par définition, est le fruit d'un consensus. Et dans le consensus, tout le monde mange une partie de son chapeau, ou beaucoup mangent une partie de leur chapeau, et puis certains ne s'y retrouveront pas. C'est le principe de la courbe de Gauss, ou de la norme dans le normal et le pathologique en médecine. On est tous à 95% soi-disant normaux, mais les 2,5% de part et d'autre sont aussi des gens normaux, mais ne se retrouvent pas dans la norme. Donc, bien évidemment, cette norme doit être connue, doit être partagée, doit être mise en œuvre, mais doit être en permanence réinterrogée, parce qu'elle peut évoluer pour voir comment finalement elle intégrerait encore mieux ou encore plus ceux qui en sont exclus. Et du coup, quand on revient à la singularité de la prise en charge d'un patient, on peut imaginer que l'on soit dans la situation de se dire, dans ce cadre-là, la norme collective ne correspond pas à ce patient, donc la question de la transgression peut être posée. Et là, on est au cœur certainement de la vraie éthique. Parce que la vraie éthique, c'est celle où le moment de la question de la transgression est posée, où on a le courage de dire que les normes et les règles ne sont pas valides et légitimes. Alors c'est une porte ouverte qui est une porte de charme et de danger. De charme parce que toute l'intelligence des esprits va pouvoir s'exprimer, les solutions nouvelles vont pouvoir s'exprimer. Ça peut être le danger aussi parce que ça peut être le refus systématique de la règle collective, le refus de tout encadrement et tout ça. Donc voilà, on est sur un fil. Et la réponse à la question de la transgression est certainement la question de la transparence des décisions. C'est-à-dire que si l'on transgresse, on explique, on en débat et on expose pourquoi l'on transgresse. Et quelque part, si l'on transgresse, on a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre, non pas au plan d'une dimension juridique, quoique, et c'est à la justice à ce moment-là de dire vous êtes acquitté et vous aviez des raisons de transgresser, et certains juges et certaines jurisprudences sont fort sages sur cette question-là, on en connaît, y compris sur la question de fin de vie. Mais aussi en rendre compte au collectif, et qu'on soit dans une société où aujourd'hui on estime que tout ne pourrait pas être normé à 100%, et que l'incertitude fait partie de la vie, et que voilà, le risque fait partie de la vie, et que la vie c'est certainement tout sauf le cadre qu'on nous a appris, et que c'est une chose en perpétuelle mutation, en perpétuelle évolution. Donc voilà, le champ de l'éthique, du moins la plus fascinante, c'est ces zones d'incertitude.